un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 22 janvier 1943 au Maroc, sur la colline d'Anfa, près de Casablanca, a lieu une rencontre historique. Pour la première fois en effet, Churchill, Premier ministre britannique, Roosevelt, le président des États-Unis et le général de Gaulle se rencontrent au cours d'une conférence qui dure 3 jours au total. Laissons de côté le personnage de Churchill et attardons-nous quelque peu sur le président américain et le chef de la France libre. La mémoire qui retient la lutte contre l'ennemi commun, à savoir le nazisme, a tendance à oublier la véritable histoire des rapports de ces deux personnages majeurs du XXe siècle. À la recherche d'une reconnaissance de son mouvement, le général de Gaulle va s'opposer aux calculs et aux manipulations politiques du président des États-Unis. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à parler d'un duel entre les deux personnages, un duel au sommet. Pour évoquer les liens qui unissaient ces deux hommes, liens faits de méfiance et de respect, liens faits d'admiration et de franche opposition, je reçois François Kersaudy. François Kersaudy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez enseigné à l'université d'Oxford, vous êtes professeur émérite à Paris 1, l'université Panthéon-Sorbonne, et vous venez de publier un ouvrage intitulé justement « De Gaulle et Roosevelt, le duel au sommet » aux éditions Perrin. On peut placer, je pense, votre ouvrage dans la lignée ou dans la continuité du livre que vous avez consacré au rapport De Gaulle-Churchill, publié également chez le même éditeur aux éditions Perrin, ceci en 2002. Alors François Kersaudy, ma première question sera une question de forme, non pas d'histoire, mais de forme. Chacun des titres de votre ouvrage ont une allusion océanographique. Alors cela m'a marqué, j'en cite quelques-uns, retour aux sources, endiguement, ressac, lame de fond. Pourquoi François Kersaudy ces allusions océanographiques ?
Oh bah, ça avait commencé par un retour aux sources, donc des sources à la mer, finalement on dérive assez facilement et ma foi les métaphores nautiques se sont imposées, peut-être parce que je venais de lire le livre de l'amiral de Gaulle, donc ça m'avait laissé une provision de métaphores nautiques à l'esprit, je suppose.
Donc vous n'aviez aucun lien particulier avec le monde maritime
Kersaudy, vous savez, c'est des Bretons, les Bretons ils sont toujours sur les mers.
Hein. Alors, venons-en donc au rapport de Gaulle-Roosevelt, mais avant de venir à ces rapports, il me semble bon de rappeler pour nos auditeurs le parcours de ces deux personnages jusqu'à l'année 1940 qui voit l'émergence de Gaulle sur le plan politique. Alors commençons par le moins connu, à savoir pour les Français en tous les cas, qu'est Franklin Delano Roosevelt. Qui est-il, disons, dans tout son parcours avant 1940 ?
Pour résumer, et pour reprendre une expression du général de Gaulle, c'était un patricien, né d'un jeune homme de très bonne famille, c'était un politicien né, qui avait été secrétaire adjoint à la marine pendant la Première Guerre mondiale, et qui aimait beaucoup la mer, donc ça on revient à nos métaphores marines, et qui savait barrer un voilier, mais qui savait tout aussi bien diriger un bateau de guerre, donc un destroyer. Donc vous voyez, la marine, c'était un petit peu sa vie. C'était aussi, on le sait moins, un francophone et un francophile. Francophone parce qu'il avait eu des nurses et des préceptrices suisses et françaises, donc son français était tout à fait correct, en tout cas nettement meilleur que celui de Churchill. Et il appréciait la France. Il appréciait la France parce qu'il était venu en France pendant la Première Guerre mondiale et il avait été plein d'admiration pour. Il avait rencontré Clémenceau, il avait rencontré Foch, il avait rencontré Pétain et il avait trouvé quand même que ces hommes-là étaient des gens extraordinaires, que le français qui avait tenu tête aux Allemands pendant si longtemps, c'était un brave, et d'où une très grande admiration pour la France. Par la suite, d'ailleurs, il avait également conservé à la fois son admiration pour l'armée française, son admiration pour certains politiciens français, notamment pour Léon Blum, qui considérait comme l'artisan du French New Deal, et ma foi, sa carrière politique a été celle que l'on connaît. Donc, il a été tour à tour membre du Parlement de l'État de New York, puis gouverneur de l'État de New York. Il a été ensuite élu président et il a été élu et réélu président. Et dans ses fonctions, à la fois, il a eu cette inspiration du New Deal, qui était une suite de mesures pas toujours très coordonnées, dont certaines ont été déclarées anticonstitutionnelles, dont certaines n'étaient pas extrêmement efficaces, mais qui marquaient un net progrès par rapport à ses prédécesseurs républicains, qui, eux, ne faisaient rien du tout. Et par conséquent, on lui en a su gré, surtout quand elles ont montré leur efficacité à partir des années 35, 36, 37. Et par conséquent, on lui a reconnu déjà cette prouesse. Et par la suite, il a dû, ce qu'il n'avait pas fait pendant son premier term, hein, pendant son premier mandat, il a dû s'intéresser aux affaires étrangères, notamment, premier mandat, il était entièrement pris par les affaires intérieures. Au cours du deuxième, l'émergence à la fois du militarisme japonais et du nazisme ont fait qu'il a été forcé à s'intéresser à la politique étrangère. Et il a été un petit peu aussi forcé de prendre le contre-pied de ce que faisaient les Américains normalement, c'est-à-dire d'une politique isolationniste qui a été celle de ses prédécesseurs, en organisant une sorte de réarmement progressif.
Est-ce que c'est un opportuniste politique ? Vous citez, je crois, André Caspi, qui parle de l'homme des sincérités successives.
Oui, absolument. Oui, c'est un très bon résumé. Il était opportuniste et il avait des sincérités successives. Il a commencé par être un chaud partisan de la Société des Nations. Et puis, petit à petit, s'apercevant que ça n'allait pas l'avantager lors des campagnes électorales suivantes, eh bien, il a petit à petit abandonné toute référence à la fois à l'engagement à l'étranger et à la SDN. À partir du moment où il a été solidement installé dans son rôle de président, là, il a pensé qu'il avait été élu pour faire quelque chose et pour faire quelque chose qui pouvait étonner dans ce pays à la fois neutraliste et isolationniste, c'est-à-dire à la fois soutenir les puissances occidentales contre l'Allemagne et la Chine contre le Japon et de faire cela contre le courant dominant de l'opinion publique américaine. C'est un homme courageux puisqu'il était tout à fait capable de prendre le contre-pied de l'opinion dominante. C'est une chose qui s'est beaucoup perdue depuis, mais que Roosevelt pouvait faire, qu'il faisait subtilement, qu'il faisait parfois même en avançant masqué, mais qu'il faisait tout de même très bien. Le général de Gaulle, à ce point de vue-là, avait un certain nombre de similitudes avec Roosevelt.
Alors, il a lu, vous le dites dans votre livre, il a lu Mein Kampf, ce qui est rare à l'époque.
Oui, absolument. C'est très rare. Il y a très peu de gens qui ont lu Mein Kampf. Il y en a encore moins qui en ont tiré les conclusions. Et lui, il l'a fait. Dès 1935-1936, il a dit « Cet homme est fou, il va déclencher la guerre et il faut s'y préparer et il faut soutenir ceux qui seront en première ligne, c'est-à-dire les Anglais et les Français.
» Alors venons-en au général de Gaulle. De Gaulle est de 8 ans son cadet, c'est bien cela.
Exact.
Bon, ils font partie de la même génération. Quel est le parcours de de Gaulle ?
Alors le parcours de de Gaulle a été le parcours d'un militaire, ce que n'était pas Roosevelt. De Gaulle a choisi d'emblée de faire une carrière de militaire. Il a fait une belle grande guerre jusqu'à ce qu'il ait été fait prisonnier. Par la suite, donc, il a monté les degrés de la hiérarchie militaire, tout en se faisant assez mal voir de la hiérarchie, justement, parce que ses idées n'étaient pas conventionnelles et qu'il avait l'habitude de prendre le contre-pied des idées dominantes, notamment sur ce que devait être la stratégie du futur pour tous les officiers supérieurs français de l'époque. Ma foi, une guerre du futur serait, la reprendrait pratiquement là où on l'a laissée en 1918. Donc avec une stratégie purement défensive qui avait bien servi pendant la Grande Guerre. Et de Gaulle, lui, considérait que tout ça a été complètement dépassé et que grâce aux chars, on allait devoir et pouvoir faire une stratégie offensive. Par ailleurs, et s'il a réussi, c'est en partie parce que il appartenait, comme il le disait lui-même, à l'écurie Pétain. Le maréchal Pétain, qui n'avait pas tout à fait les mêmes idées que lui, c'est le moins qu'on puisse dire, admirait quand même sa façon, à la fois sa culture, son énergie, le fait qu'il puisse soutenir des doctrines nouvelles, et ça lui rappelait probablement au maréchal Pétain ce que lui-même avait fait avant la Première Guerre. En tant que un petit peu stratège qui allait à l'encontre des opinions dominantes de l'époque. Et il faut dire aussi que de Gaulle était un militaire, mais c'était un militaire qui, par la force des choses, ne s'est pas cantonné au domaine militaire. C'est-à-dire que dans les années 30, il a été détaché au Conseil supérieur de la Défense nationale et à cet endroit, il a appris un certain nombre de choses sur ce qu'était la politique, sur les imbrications du militaire et du politique, sur la difficulté qu'on avait à faire connaître aux parlementaires les problèmes de défense et à les persuader de leur utilité, et à prendre une vue qui n'était pas strictement une vue de militaire, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble des choses et à considérer que l'organisation de la guerre, c'était au plus haut point une organisation politique, ce qu'il pressentait déjà au début. L'homme politique devait avoir une vue d'ensemble sur la conduite de la guerre et les généraux devaient appliquer les conceptions des civils, sinon rien n'allait plus. Et par ailleurs, son séjour au Conseil supérieur de défense nationale et son implication donc dans les problèmes politiques lui avait fait mesurer à la fois l'état des ressources de la France, mais également étudier ce qu'étaient les ressources d'un certain nombre d'autres pays, y compris les États-Unis. Et ça lui a permis de mesurer, avant même le déclenchement de la guerre, l'extraordinaire potentiel industriel et donc militaire que pouvaient avoir les États-Unis. Et ça, il n'y en a pas énormément qui avaient pu le faire. Et parmi ceux qui en ont toujours été incapables, il y a eu Hitler. Hitler a pu déclarer d'un cœur léger en 1941 la guerre aux États-Unis, ce qu'il n'était pas du tout obligé de faire, tout simplement parce qu'il avait fatalement sous-estimé leur capacité de production et qu'il n'avait pas vu le rapport entre leur capacité de production civile et leur capacité de production militaire. De Gaulle lui en était parfaitement conscient et lorsqu'il a été appelé au gouvernement au début de juin 40, dans les circonstances assez calamiteuses que l'on connaît, il y est venu en pensant déjà à ce que pouvaient être les ressources des États-Unis et en pensant à l'appui que l'on pouvait avoir lorsqu'il a eu à prendre la décision soit de rester en France, soit de partir en Angleterre. Eh bien, le 17 juin 1940, il y a deux choses qui ont joué. Il y a sa connaissance de l'Angleterre et de Winston Churchill, où il s'est dit que l'Angleterre ne capitulerait pas avec un pareil lutteur à sa tête, et donc qu'il pourrait compter sur l'appui de Churchill. Il ne serait certainement pas venu en Angleterre s'il n'y avait eu que Chamberlain. Et en même temps, l'idée que la France en exil pourrait compter sur la capacité de production qu'il savait pratiquement illimitée des États-Unis.
Alors, c'est ce que nous allons voir, si vous le voulez bien, François Kersaudy, après une première pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit François Kersaudy, auteur du livre De Gaulle et Roosevelt, Le duel au sommet, paru aux éditions Perrin. Alors, nous avons évoqué le parcours des deux personnages. Je voudrais m'arrêter au sentiment du général de Gaulle à l'égard des États-Unis. Quel est son sentiment politique? Pleven disait « Avec les États-Unis, le voilà démuni, il ne trouve pas de clé historique ». Est-ce que de Gaulle, certes, il voit la capacité de production des États-Unis, il voit la force économique des États-Unis, mais politiquement, est-ce qu'il arrive à la comprendre ?
Non, je crois qu'il ne la comprend pas. Je crois qu'il ne comprenait pas très bien, d'ailleurs, non plus les institutions américaines. Et il considérait que c'était un pays qui avait très peu d'histoire, un pays neuf, un pays qui pouvait faire preuve dans sa politique étrangère d'une certaine naïveté. Les choses n'ont pas changé depuis. Mais également, il avait l'impression que, du côté américain, on n'avait jamais exactement fait ce qu'il fallait au cours de la Grande Guerre. De Gaulle en voulait d'une certaine façon, et ne se gênait pas pour le dire d'ailleurs, aux Américains d'être intervenus si tard pendant la Grande Guerre. Et encore, il a fallu, disait-il, qu'on leur torpille leur bateau pour qu'ils se décident à venir nous aider en 1917. De Gaulle avait une mémoire très longue. Il considérait que la Deuxième Guerre mondiale commençait à la première, donc en 14, et que ça n'était qu'une continuation, que les Américains s'étaient réveillés bien tard, déjà pendant la Première Guerre, et encore plus pendant la deuxième.
Il a une analyse bainvillienne des choses ?
Oui, on peut tout à fait dire ça. Et, d'ailleurs, il était marqué par l'homme en question. Et il n'était pas très indulgent vis-à-vis de la politique étrangère américaine. Déjà pendant la Première Guerre, je vous l'ai dit. Mais aussi, pendant la deuxième, il trouvait quand même que les Américains avaient tort de se détacher des affaires de l'Europe, auraient dû se décider à entrer dans la guerre à peu près en même temps que les Français et les Anglais, et il ne comprenait pas cette politique neutraliste, de même qu'il ne comprenait pas les obligations auxquelles devait faire face Roosevelt avec à la fois un congrès et une opinion publique isolationniste et neutraliste. Ce qui n'empêchait pas, de la part du général, d'avoir une très grande admiration pour Roosevelt en tant que personne. Et cette admiration était basée, je crois, sur trois considérations. La première, c'était le New Deal. Il avait admiré le New Deal. La deuxième, c'était qu'il avait pu apprécier les efforts faits par Roosevelt pour préparer son pays à un conflit, en dépit des problèmes et des charges qui pesaient sur lui. Et la troisième, je crois, c'était une admiration pratiquement physique, c'est-à-dire qu'il savait que le président Roosevelt était paralysé des deux jambes, et sa connaissance de la politique américaine lui faisait penser que dans un pays où l'aspect physique compte tellement, et l'aspect sportif même pratiquement dans la politique, eh bien, arriver à la présidence est arrivé à se maintenir à la présidence et même à être réélu en étant paralysé des deux jambes, c'est-à-dire à ne pas pouvoir parcourir pratiquement un mètre indépendamment, eh bien c'était un exploit dont lui-même ne se croyait pas capable. D'où l'admiration, la triple admiration qu'il vouait au président Roosevelt, qui n'était alors, malheureusement pas réciproque.
Alors, venons-en justement à cette mésentente. Mai-juin 40, la défaite de la France est en juin, l'armistice est en juin. En revanche, dès le 16 mai, c'est ce que vous écrivez, Washington considère que la France est perdue. Il y a déjà deux conceptions différentes. De Gaulle tient à ce qu'on continue la guerre. Washington pense que tout est perdu.
Oui. Et il faut dire que les rapports qui parvenaient à Washington, envoyés par les attachés militaires américains, par l'ambassadeur des États-Unis, William Bullitt, étaient quand même assez défavorables. Enfin, c'était variable, mais il y avait quand même un certain nombre de choses inquiétantes. Il montrait quand même que Gamelin était un incapable, que Weygand était un défaitiste, ce qui est embêtant pour un commandant en chef, et que le président Paul Reynaud, président du Conseil, il faisait ce qu'il pouvait, mais qu'il ne pouvait pas grand-chose, et qu'il était entouré lui-même de défaitistes, et en plus qu'il était harcelé par sa maîtresse, Madame de Porte, et évidemment, déjà que les Français avaient un petit peu la réputation de ne pas être très sérieux aux États-Unis, mais l'idée d'un président du Conseil harcelé par sa maîtresse, c'était quelque chose qui, pour Roosevelt, tout ça au milieu même d'une guerre à outrance avec l'Allemagne, ça lui donnait l'impression que les Français n'étaient pas sérieux.
Roosevelt est très critique à l'égard de la Troisième République finissante.
Oui, oui. C'est-à-dire que il a été déçu. Il pensait, comme Churchill d'ailleurs, que la plus grande armée européenne, comme en 14, c'était l'armée française, et que par conséquent, elle allait s'illustrer. À partir du moment où il a vu avec quelle rapidité elle était vaincue, qu'il a vu comment ses politiciens, ma foi, faisaient preuve d'un courage très relatif, eh bien, il est passé à l'autre extrême. Il est passé de l'admiration sans borne à une espèce de mépris irraisonné.
Vous dites une immense déception.
Ah, c'est une immense déception, absolument. Oui, tout à fait. À la différence de Churchill, qui lui a été déçu aussi, mais Churchill, prenant toujours ses désirs pour des réalités, a refusé d'admettre que la France était battue, même quand elle l'a été, alors que Roosevelt, plus pragmatique, eh bien, en a tiré les conséquences, et il a dit, bon, puisqu'elle est battue, elle ne compte plus.
Alors, d'un point de vue pratique, comment Roosevelt réagit-il? Est-ce qu'il compte apporter malgré tout un peu d'aide? Bien évidemment, il ne peut déclarer la guerre, en tous les cas, comme en 1940. Est-ce qu'il envoie des aides aux Anglais? Est-ce qu'il envoie des aides aux Français?
Oui, il envoie des aides aux deux, jusqu'au moment assez rapide, vers le début de juin, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'en fait, ça ne vaut plus la peine d'envoyer une aide aux Français, parce que de toute façon, ils sont battus. Et à ce moment-là, cette aide qu'il a imposé pratiquement à ses généraux et à ses ministres, personne ne voulait envoyer de cette parce qu'on avait peur que ça soit perdu, eh bien, il l'a fait détourner au profit de l'Angleterre. En disant, bon, je suis convaincu que la France est battue, je ne suis pas du tout convaincu que l'Angleterre l'est parce que l'Angleterre a Churchill, et par conséquent, on va continuer à approvisionner l'Angleterre. Et ça, il l'a fait, et c'est une des raisons pour lesquelles on peut dire que Roosevelt est un grand homme. Tout le monde était pratiquement prêt à passer l'Angleterre aux pertes et profits, eh bien, Roosevelt, non. Roosevelt a dit, tant que Churchill sera là, l'Angleterre va résister. Si elle va résister, nous devons pratiquement dégarnir nos défenses pour lui permettre de résister. Et ça, c'était quand même la vision d'un homme d'État.
Alors, politiquement et militairement, il est très intéressé par une autre question, qui est la question de la flotte française.
Et de l'Empire.
Pourquoi cela?
Parce que la première préoccupation de Roosevelt, et c'est légitime pour un président américain, c'était la sécurité des États-Unis. Pratiquement avant son opinion publique et avant ses ministres, Roosevelt a compris qu'à partir du moment où Hitler dominerait l'Europe, à partir du moment où il mettrait la main sur l'Empire français, à partir du moment où il mettrait la main sur la flotte française et même sur la flotte britannique, parce que ça pouvait arriver, eh bien, les États-Unis seraient directement menacés et qu'il ne s'agissait pas de commencer à s'alarmer au moment où le continent américain serait totalement isolé. Et il fallait avoir sa ligne de défense pratiquement déjà en Europe. Et la dernière ligne, ça devait être les îles britanniques. Ça, c'était également une vision d'homme d'État.
Alors, comment entend-il parler du général de Gaulle la première fois?
Alors, il entend parler du général de Gaulle deux fois pendant la campagne de France, les deux fois en termes très élogieux. La première fois, c'est Churchill, qui, au retour d'une réunion assez calamiteuse avec Paul Reynaud, ajoute dans sa lettre à Roosevelt, il y a avec Reynaud un certain général de Gaulle qui est jeune et qui croit que l'on peut faire beaucoup. C'était pas mal parce que c'est le seul, c'est vraiment le seul dans ce gouvernement de qui on pouvait dire ça. Le deuxième, c'est l'ambassadeur Bullitt. L'ambassadeur Bullitt, après avoir dessiné un portrait très sombre de ce qu'était ce gouvernement français, qui était vraiment pratiquement manipulé, contrôlé par des défaitistes, disait, il y a une exception, on m'a présenté le général de Gaulle, c'est un homme intelligent qui s'est illustré sur le terrain à la tête de ses chars, qui a détourné l'offensive allemande de Paris, ce qui était peut-être un petit peu exagéré, mais néanmoins, il donnait l'impression que c'était un homme sur qui on pouvait compter, un homme de relief. Et donc, Roosevelt a eu deux commentaires favorables de deux personnes différentes sur les jugements desquels il comptait, mais il n'en a tiré aucune conclusion, visiblement.
aucune conclusion. Que représente dans la réalité, au fond, le général de Gaulle en 1940 pour la France et au-delà pour Churchill, puisque c'est par Churchill qu'il en a entendu parler la première fois?
Alors, ce que de Gaulle représente pour la France, c'est rien du tout, parce qu'en France, on ne connaît pas le général de Gaulle. On ne le connaît pas au moment où il va en Angleterre. Très peu de gens le connaissent. Pour Churchill, il représente trois choses. Pendant la campagne de France, il représente l'homme qui va empêcher le gouvernement de Paul Reynaud de capituler. Et ça, c'est très important. Et donc, d'où le fameux plan d'une union franco-britannique qu'ils ont concocté tous les deux, dont ils se sont fait en tout cas tous les deux les avocats, alors qu'ils n'y croyaient ni l'un ni l'autre, mais dont ils pensaient que ça permettrait à Paul Reynaud de l'emporter sur les défaitistes de son gouvernement. En tout cas, Churchill, qui n'avait toujours que des amis utiles, a compté sur De Gaulle, parce que De Gaulle représentait justement une France qui voulait continuer à se battre, alors que le reste du gouvernement n'y tenait plus. Lorsque la France, finalement, a baissé, a rendu les armes, De Gaulle représentait, De Gaulle venu en Angleterre, représentait une fiction. Churchill était un grand romantique. Et il était, c'était un journaliste et un propagandiste de génie. Et son idée était que la capitulation de la France allait être un coup terrible pour l'opinion publique britannique. Et personne ne savait si l'opinion, si le Parlement était prêt à résister. Les sirènes de la capitulation étaient assez fortes. Il y avait d'illustres représentants qui pensaient que, ma foi, on pouvait s'entendre avec Hitler, puisque de toute façon, on avait été battu à Dunkerque, il n'y avait plus grand-chose comme défense du côté de l'Angleterre. Et, ma foi, les pacifistes, Halifax, Chamberlain, même le vieux Lloyd George, étaient tout à fait prêts à discuter avec Hitler. Et l'opinion publique risquait de les soutenir, car cette France qui a été le rempart de l'Angleterre pendant la Grande Guerre, eh bien, d'un seul coup, s'écroulait. Et ça, c'était un coup terrible au moral des Anglais. Et Churchill, un propagandiste de génie, présente aux Anglais, au Parlement, au roi, cet homme dont il dit « La France, vous croyez que la France est vaincue ? C'est pas vrai, la France n'est pas vaincue, puisqu'elle est là en la personne du général de Gaulle, qui a une stature, qui a un nom, qui a une stratégie, qui a une politique, et qui a une voix, et qui, par conséquent, va poursuivre la guerre avec nous. Nous ne sommes donc pas seuls, comme vous le pensiez. Nous sommes avec la France est ici, elle est avec nous. C'est de Gaulle.
C'est pour cette raison que Roosevelt considérera de Gaulle longtemps comme une créature au fond de Churchill.
Absolument.
C'est ce que nous verrons après une deuxième pause. Je rappelle qu'Un jour dans l'histoire reçoit François Kersaudy, auteur du livre De Gaulle et Roosevelt, le duel au sommet, paru aux éditions Perrin. A tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Je reçois François Kersaudy, auteur du livre De Gaulle et Roosevelt, le duel au sommet, paru aux éditions Perrin. Alors, nous avons longuement évoqué l'année 1940 et la position donc du général de Gaulle vis-à-vis de Roosevelt, ou plutôt la position de Roosevelt vis-à-vis du général de Gaulle naissant et présenté à lui par Churchill. Roosevelt, pendant toutes les années suivantes, va avoir un comportement assez, j'allais dire, non pas ambigu, mais clair vis-à-vis du régime de Vichy. Et dites-vous, au fond, c'est un des piliers de la mésentente entre De Gaulle d'une part et Roosevelt de l'autre.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et il faut voir un petit peu, on a parlé de la déception de Roosevelt devant la défaite de la France. À partir de ce moment-là, il considérait que finalement la France n'existait plus, que, ma foi, Vichy, qui était un petit peu à la botte des Allemands, ça suffisait pour représenter une France qui n'était plus rien. Et par ailleurs, les relations devaient tout de même être conservées parce que Vichy, tout en étant plus rien, détenait quand même deux choses auxquelles Roosevelt tenait, c'est-à-dire la flotte française et l'Empire français. Et par conséquent, ça méritait un certain respect. Pour Roosevelt, de Gaulle, lui, ne représentait rien du tout. Il ne représentait que lui-même. C'était un militaire. Roosevelt se méfiait des Français après la défaite, mais encore plus des militaires. Un militaire qui prenait des positions politiques, pour lui, c'était forcément un fasciste. Et donc, ma foi, il préférait traiter avec Pétain, qui pourtant était nettement plus près du fascisme que ne l'était de Gaulle, qui lui aussi était militaire, mais qui, ma foi, était un vieil homme que Roosevelt connaissait depuis la Première Guerre, donc il avait ses habitude, et puis surtout, qui avait ces deux cartes maîtresses, la flotte et l'Empire. La flotte que Roosevelt voulait voir soustraire aux Allemands, et l'Empire sur lequel, moi pour certaines parties, Roosevelt avait des vues. Il y avait quelques bases stratégiques. Mersel-Kébir, Dakar surtout, sur lesquels Roosevelt, ma foi, pensait que la France ne pourrait pas les conserver, que donc, ma foi, on pourrait les mettre sous administration internationale, c'est-à-dire américaine, les Nations Unies, mais les Nations Unies, c'était une création de Roosevelt. Et, ma foi, à la faveur de cela, eh bien, on mettrait la main sur Dakar. Et Dakar étant très importante comme base parce que, ma foi, elle faisait face à l'Amérique du Sud. Et donc, stratégiquement, c'était essentiel.
Il y a tout au long de ces années l'importance de l'opinion publique. Est-ce qu'au fond, Churchill n'est pas plus lucide que Roosevelt sur l'importance, vous l'avez dit tout à l'heure, de la propagande et donc de l'opinion publique sur les consciences?
C'est-à-dire que Churchill, je vous ai dit, avait au moins deux raisons de soutenir le général de Gaulle. La première, c'était d'éviter le défaitisme français. Quand il y a eu une défaite de la France, c'était d'amortir le choc de l'opinion publique anglaise et donc de le présenter comme étant la France, pour remonter le moral de son opinion publique, parce qu'il pensait très justement, d'ailleurs, qu'on ne pouvait tenir que par le moral de son public. Et une troisième raison, c'était que Churchill, n'étant pas toujours réaliste, mais enfin il l'était quand même assez souvent, s'apercevait bien qu'après Dunkerque, tous les projets d'offensive qu'il pouvait faire étaient probablement voués à l'échec. S'il y avait un endroit où on pouvait prendre pied dans un avenir pas trop lointain, c'était pas en Europe. L'Europe commençait à être fortifiée par les Allemands. C'était en Afrique, et en particulier en Afrique du Nord et en Afrique occidentale. Or, l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale étaient françaises, et par conséquent, il pensait que son alliance avec de Gaulle pouvait, d'une façon ou d'une autre, lui ouvrir les portes de l'Afrique du Nord et de l'Afrique occidentale. Bon, il s'est aperçu, après l'échec de Dakar, que c'était pas tout à fait aussi simple que ça. Mais enfin, il a continué parce que cette fiction qu'il avait créée avait pris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait persuadé les Anglais que de Gaulle était la France et que de Gaulle était l'homme avec qui il fallait s'allier, eh bien, il ne pouvait plus faire le chemin en sens inverse. Son opinion publique avait été convertie, son parlement avait été converti, son roi avait été converti et donc était devenu de ferme soutien du général de Gaulle. Et donc, on ne pouvait plus l'abandonner.
Alors, je reviens à Roosevelt. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, ou plutôt un paradoxe, entre le soutien à Londres, d'une part, et le maintien de relations diplomatiques avec Vichy?
Oui et non, parce que l'Angleterre avait elle-même des relations officieuses, mais néanmoins assez étroites avec Vichy, à la grande fureur d'ailleurs du général de Gaulle.
On peut dire que les relations diplomatiques entre Londres et Paris ont été officiellement coupées après Mersel-Kébir, c'est bien cela ?
Avec Paris, je crois qu'il n'y en a plus eu du tout, mais avec Vichy, parce que Paris était entièrement allemand, ou alors c'est les collaborationnistes, mais à Vichy... Il y avait des relations diplomatiques qui étaient maintenues entre les États-Unis et Vichy, les États-Unis pays neutre et Vichy. Et il y avait des relations indirectes entre Londres et Vichy, en particulier par l'intermédiaire des Canadiens. Et on se parlait même s'il n'y avait plus de relations diplomatiques en tant que telles.
Alors donc, contradiction, oui ou non, dans le maintien des relations diplomatiques avec Vichy d'une part, pour Roosevelt, et le maintien de relations avec, avec Londres ?
Pour Roosevelt, pas du tout, parce qu'il considérait d'une part que en maintenant les relations diplomatiques avec Vichy, il rendait service aux Anglais, puisqu'il pouvait les informer, son ambassadeur pouvait informer les Anglais de tout ce qui se disait et de tout ce qui se faisait à Vichy. Et d'autre part, il considérait qu'il rendait un grand service à l'Angleterre, puisque en maintenant ses relations et ses pressions sur Vichy, il empêchait que l'on livre à la fois la flotte et l'Empire aux Allemands, et ça, c'était encore plus l'intérêt des Britanniques que celui des Américains.
Alors, il y a une affaire qui est l'affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui va en quelque sorte porter De Gaulle, en tous les cas, qui va porter De Gaulle dans l'opinion publique. Et Roosevelt, alors qu'est-ce que l'affaire d'abord de Saint-Pierre-et-Miquelon, et comment en bénéficie le général De Gaulle par rapport à l'opposition de Roosevelt ?
Alors, l'affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut bien voir à quel moment ça se passe. Ça se passe à la veille de Noël de 1941, c'est-à-dire que les États-Unis sont maintenant entrés en guerre, à la fois contre le Japon et contre l'Allemagne. Et De Gaulle en déduit logiquement que puisque maintenant ils sont alliés de plein droit à la fois de l'Angleterre et de la France libre, eh bien ils ne s'opposeront pas ou ils ne pourront pas valablement s'opposer à ce que la France libre prenne à Vichy Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est en quelque sorte pour lui une libération. Il fait entrer Saint-Pierre-et-Miquelon dans la guerre aux côtés des alliés, de tous les alliés. Il sait, bien entendu, parce qu'il est quand même bien informé, qu'il y a des relations qui se poursuivent malgré l'entrée en guerre des États-Unis. Les relations se poursuivent comme avant entre les États-Unis et Vichy. Mais il se dit que c'est justement le moment de mettre les pieds dans le plat et de troubler un petit peu ces relations en obligeant les Américains à prendre parti. Et il sait que l'opinion publique américaine, très remontée depuis le bombardement de Pearl Harbor, et très anti-hitlérienne naturellement, risque d'approuver son attitude et cette prise de Saint-Pierre, des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est des toutes petites îles, c'est minuscule, hein, c'est au large de Terre-Neuve. Et c'est une espèce de coup qui est fait par l'amiral Muselier, qui est envoyé par le général de Gaulle, et qui déclare que dorénavant, ma foi, Saint-Pierre-et-Miquelon, les deux îles entrent dans la guerre sous le drapeau de la France libre. Et contrairement à ce que l'on pouvait attendre, les Américains sont furieux, en particulier le département d'État. Et d'ailleurs, Roosevelt lui-même, même s'il le montre un peu moins, parce que Roosevelt est un excellent comédien. Et le secrétaire d'État américain, qui s'appelle Cordell Hull, fait un discours assez maladroit d'ailleurs, dans lequel il dit que l'action des navires soi-disant français libres a été entreprise sans aucune consultation avec Washington et qu'il avait demandé au gouvernement canadien quelles mesures il comptait prendre pour rétablir le statu quo dans les îles. Alors, les navires soi-disant français libres, ça s'est très mal passé dans l'opinion publique américaine. Et dans les semaines qui ont suivi, le malheureux Cordell Hull a reçu des tombereaux de lettres d'injures adressées au soi-disant secrétaire d'État, soi-disant département d'État, etc. Et alors, il a essayé de s'en tirer en faisant une déclaration en disant que, mais non, parce qu'en fait, c'était pas, il n'avait pas dit les soi-disant français libres, il avait parlé des navires soi-disant français libres. Alors, les journaux étaient pleins de commentaires sarcastiques en disant, à moins qu'il ne s'avère que l'amiral Muselier et ses hommes ont débarqué à Saint-Pierre sur des planches à voile, cette excuse de Cordell Hull ne tiendra pas. Un autre journal américain disait en effet, ces navires soi-disant français libres n'étaient peut-être pas des navires, c'était peut-être des éléphants roses, etc. Bon, et les sarcasmes ont pratiquement blessé Cordell Hull Gaulle encore plus que les injures, et il en a conçu une haine féroce pour le général de Gaulle qui était à l'origine de tous ces malheurs. C'est un homme très orgueilleux, Cordemal.
Alors, il y aura d'autres affaires de friction entre les deux parties. Il y aura le fameux Darlan Deal. Nous sommes obligés, malheureusement, d'avancer et donc de passer sur ces points. En fait, le général de Gaulle, en tous les cas Roosevelt, ne prend pas la mesure du chef de la France libre, de la France combattante, et il ne le fera, il prendra cette mesure que sur la colline d'Anfa, donc la fameuse conférence d'Anfa qui a lieu au Maroc. Alors pourquoi cette conférence? Qui invite qui? Et que se passe-t-il à Anfa?
La conférence découle directement de l'affaire Darlan, en fait, hein, de l'affaire Darlan et du choix des États-Unis. Roosevelt a misé sur un grand nombre de personnages pour supplanter le général de Gaulle. Il a misé sur Pétain, il a misé sur Weygand en Afrique du Nord, jusqu'à ce qu'il soit mis à la retraite, enfin, qu'il soit rappelé d'Afrique du Nord. Il a misé sur Giraud pour l'aider, pour conduire le débarquement, en tout cas pour empêcher les Français d'Afrique du Nord de s'opposer au débarquement. Ça n'a pas fonctionné. Il a trouvé Darlan en Afrique du Nord, il a misé sur Darlan. Darlan a été assassiné, donc il a à nouveau misé sur Giraud, qu'il a installé comme commandant en chef civil et militaire, déjà un titre bizarre. Et il s'est aperçu très rapidement, à la fois que ce fameux accord avec Darlan avait été très mal reçu dans l'opinion britannique et américaine, que le soutien à Giraud n'était pas très populaire non plus, et que, ma foi, il allait falloir faire quelque chose pour montrer que, d'abord, il n'était pas si opposé que ça au général de Gaulle, en tout cas, s'il l'était, il ne voulait pas que ça se voie, et par conséquent, vu la façon dont le Darlan Deal avait été reçu et la façon dont Giraud lui-même a été accueilli, eh bien, il fallait quelque part organiser une espèce de spectacle de réconciliation. Même si c'était du spectacle, même si c'était totalement artificiel, Roosevelt, étant un très bon comédien, savait faire des mises en scène. Comme, en outre, il y avait une conférence prévue depuis de longues dates pour fixer la stratégie future des Anglo-Américains à partir du moment où l'Afrique du Nord serait entièrement reconquise. Là, il y avait le Maroc et l'Algérie, mais pas encore la Tunisie, au début de janvier 1943. Eh bien, ça allait être une réunion politique entre Churchill et Roosevelt, à laquelle on convoquerait De Gaulle et Giraud pour organiser une sorte de réconciliation de façade. Et pendant ce temps-là, les chefs d'état-major britanniques et américains se mettraient d'accord, ce qui était loin d'être le cas à la fin de 1942, sur le prochain objectif des Alliés après la conquête de la Tunisie.
Alors, ils ont dû batailler ferme pour faire venir De Gaulle, puisque De Gaulle, au fond, ne voulait pas venir.
Voilà. Alors, à Anfa, une colline hein, au-dessus de Casablanca, où vous avez, c'est une espèce de pièce de théâtre tout à fait extraordinaire, vous avez un grand hôtel qui est monopolisé par les chefs d'état-major anglais et américain, dans une ambiance assez bon enfant, un petit peu de club méditerranéen. Et puis alors, au-dessous, dans un parc, de très belles villas dont les propriétaires ont été expulsés et qui ont été réquisitionnées, une pour Churchill, une pour Roosevelt, une pour De Gaulle, une pour Giraud, et avec un splendide parc, avec une végétation luxuriante, dans cette ambiance tropicale, matinée, à la fois camp de vacances et camp d'internement, puisque c'est protégé par un triple rang de fil de fer barbelé, par des projecteurs, par des sentinelles américaines et anglaises avec des mitraillettes, et par la DCA. Et tout ça, et ils sont totalement isolés à l'intérieur de ce petit paradis. Et pendant que leur chef d'état-major, ma foi, débattent de stratégies futures, eh bien, eux, ils essayent de parvenir à un arrangement pour montrer à l'opinion publique américaine et anglaise qu'il y a une réconciliation entre Giraud et De Gaulle.
Alors, quels ont été les propos échangés lors de cette toute première rencontre entre Roosevelt et De Gaulle? C'est ce que nous verrons après une dernière pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves. Plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois François Kersaudy, auteur du livre De Gaulle et Roosevelt, Le duel au sommet, paru aux éditions Perrin. Alors nous sommes au Maroc, sur la colline d'Anfa. A lieu pour la première fois la rencontre motivée par Roosevelt lui-même entre le président des États-Unis donc et le chef de la France libre. Alors vous dites dans votre livre que... Vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre livre, Roosevelt est un homme qui a beaucoup de charme et lors de cette rencontre, Roosevelt fait preuve là encore de charme et visiblement ça prend.
Ça prend, oui, c'est ça qui est remarquable. Roosevelt pouvait charmer à peu près qui il voulait quand il s'en donnait la peine. Et là, vraiment, il a sorti le grand jeu. Et De Gaulle a été impressionné à la fois parce que déjà, il avait une admiration préalable pour l'homme. Je crois qu'il a découvert que Roosevelt s'exprimait en français. Il n'avait pas l'habitude. Et de façon tout à fait intelligible. Et en même temps qu'il avait une certaine hauteur de vue... Et surtout, et ça c'était le charme suprême de Roosevelt, que Roosevelt était un homme qui savait écouter et qui savait donner à son interlocuteur l'impression qu'il n'était là que pour lui.
Et c'est ce qui fait sa force. Hein.
C'est ce qui fait tout à fait sa force. En tant que politicien, en tant que diplomate, en tant que président, en tant que... ça a toujours fait sa force. Et tout le monde succombait au charme de Roosevelt. Et ma foi, De Gaulle n'a pas fait exception. Et il a dit d'ailleurs à la sortie de cette entrevue, j'ai trouvé en Roosevelt quelqu'un qui m'a parfaitement compris. Et ça, c'est le triomphe, si vous voulez, de la mise en scène, parce que Roosevelt n'a absolument pas compris De Gaulle. Il l'a dit à son fils, d'ailleurs, après l'entrevue, que c'était, De Gaulle était un apprenti dictateur, dont il se méfiait énormément. Il n'a pas vraiment tenu compte de ce que De Gaulle lui a dit. Et donc, il y a une certaine méprise à la sortie. De Gaulle est convaincu d'avoir persuadé le président. Le président est convaincu d'avoir mis De Gaulle un petit peu dans sa poche et qu'il pourra organiser une bonne réconciliation dans laquelle il pourra, ma foi, associer Giraud et De Gaulle. Au départ, d'ailleurs, son plan, c'était de subordonner De Gaulle à Giraud, mais ayant rencontré Giraud et De Gaulle, il s'est aperçu que, ma foi, ça n'allait pas être possible, parce qu'il s'est aperçu que Giraud, malgré une très belle apparence, était tout de même un poids-plume, et que De Gaulle, visiblement, n'en était pas un. Et que donc, la subordination, il fallait abandonner. Mais, ma foi, il prévoyait une sorte de comité à trois, un triumvirat, dans lequel il y aurait trois hommes égaux, qui seraient De Gaulle, Giraud... et un troisième qu'on ferait venir qui serait, à ma foi, agréable à la fois à Churchill et à Roosevelt. Et ma foi, ce triumvirat, sous la bienveillante houlette de l'Angleterre et des États-Unis, gérerait les affaires de la France au mieux des intérêts du président Roosevelt. C'était ça son plan.
Mais De Gaulle veut être le premier consul.
De Gaulle, naturellement, veut être le premier. Giraud veut aussi être le premier consul, d'ailleurs. Parce que Giraud n'a pas compris que, ma foi, on avait déjà abandonné l'idée de lui subordonner De Gaulle. Pour De Gaulle, il n'est pas question d'être subordonné à Giraud. Ça n'a pas de sens. D'autant qu'il sait que Giraud a écrit une lettre un petit peu compromettante au maréchal, par laquelle il s'engage à ne pas contrarier son action, ni celle du président Laval, ce qui est évidemment très embêtant et compromettant. Et donc, De Gaulle ne veut pas entendre parler d'une subordination à Giraud, et encore moins, parce que ça revient au même, d'une subordination à Churchill et à Roosevelt. Mmh. D'où l'impossibilité de s'entendre. Et il n'y aura pas d'entente, enfin, entre De Gaulle et Giraud. Absolument pas. Mais ça ne débouchera pas sur une rupture, toujours parce que Roosevelt a l'art de la mise en scène. Et la fameuse mise en scène qui a fait le tour du monde, c'était la poignée de main organisée par Roosevelt entre De Gaulle et Giraud.
Où on voit que
De Gaulle trouvait absolument ridicule. Mmh. Ces deux hommes très raides qui se serrent la main. Et comme les photographes n'avaient pas réussi tous à le prendre au bon moment... on recommence, on refait une deuxième fois la poignée de main pour le bénéfice des photographes. Et Roosevelt est ravi parce qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Pour l'opinion publique, ça montrera que Roosevelt a réussi à organiser une réconciliation de Gaulle-Giraud.
Alors, faisons un bond dans le temps. Il est étonnant de voir que Roosevelt gardera toujours cette réserve, alors que plusieurs militaires américains, notamment Eisenhower, comprendront l'importance politique, pas seulement militaire, mais politique, du général de Gaulle.
Plusieurs militaires américains et plusieurs civils américains. Tout à fait étonnant de voir que dans l'entourage de Roosevelt, à mesure que le temps passe, à partir de la fin de 1943, tous les gens autour de Roosevelt, le secrétaire d'État Cordell Hull, le ministre de la guerre Stimson, le vice-ministre aussi, et tous ces gens qui détestaient cordialement de Gaulle sans l'avoir rencontré, à partir du moment où ils le rencontrent, ils s'aperçoivent que finalement c'est pas du tout ce qu'ils pensaient. Pour Cordell Hull qui rencontre de Gaulle à la fin de 43 en revenant de Moscou, et c'est tout à fait étonnant. En sortant de l'entrevue, il écrit on nous a trompé sur le général de Gaulle, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est un grand homme, on sait pas trop ce qu'il s'attendait à trouver. Est-ce qu'il s'attendait à le trouver avec des cornes et une fourche? Sais pas, mais il a été sidéré du contraste entre l'impression qui s'en était faite et puis le personnage qu'il avait rencontré. Il faut dire que de Gaulle aussi, quand il voulait, il pouvait tout à fait charmer ses interlocuteurs. L'ennui, c'est qu'il voulait pas trop souvent, ce qui explique un certain nombre de friction avec Churchill et avec quelques autres. Mais là, en l'occurrence, il a pleinement réussi. Et si vous voulez, à partir de 1944, pratiquement tout l'entourage de Roosevelt est devenu gaulliste. Et il ne reste plus que Roosevelt lui-même et l'amiral Leahy, dont il faudrait parler un petit peu aussi, qui sont restés, affectés d'une gaullophobie pratiquement pathologique. Pour ce qui est de Roosevelt, il l'emportera même dans la tombe.
Ce qui amène en fait Eisenhower à promettre au fond au général de Gaulle qu'il rentrera à Paris. Et ça, c'est un point majeur du parcours gaulliste.
Oui, absolument. Entre autres personnes que de Gaulle a réussi à charmer, il y a le général Eisenhower. Le général Eisenhower, au début de son proconsulat en Afrique du Nord, était très énervé par ce de Gaulle qu'il n'avait jamais rencontré, qui lui paraissait, un personnage difficile, caractériel. Rien de tout ça n'était totalement faux d'ailleurs, mais il n'avait pas rencontré le personnage. Quand il l'a rencontré, il s'est aperçu qu'un certain nombre de ses préventions n'étaient pas du tout fondées et que c'était pratiquement le seul Français sur qui on pouvait compter en fait. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce de lien qui s'est créé entre les deux hommes, et Eisenhower a désobéi à la plupart des instructions qui lui étaient envoyées par Roosevelt, et quand il ne désobéissait pas, il les interprétait d'une façon qui était tout à fait différente de l'esprit dans lequel Roosevelt aurait voulu voir exécuter ses ordres, c'est-à-dire dans un sens totalement anti-gaulliste. Et à la fin de 1943, alors que Eisenhower partait pour l'Angleterre où il allait préparer l'opération Overlord, Eisenhower lui a dit « Quelles que soient les instructions que je recevrai, je ne m'appuierai sur personne d'autre que sur vous une fois que je serai rentré en France. » Et là, il y avait une bonne raison, c'était tout à fait pragmatique, c'est qu'il s'était déjà aperçu en Afrique du Nord que quand de Gaulle était là, les choses marchaient. Quand il n'était pas là et qu'on s'appuyait sur des gens comme Giraud ou comme un certain nombre des vichistes avant lui et Darlan et quelques autres, eh bien, rien ne marchait. Il y avait des complots partout, c'était catastrophique, tout était désorganisé. Et lui avait besoin d'ordre et de calme pour que son système fonctionne. Il ne voulait pas faire une occupation, hein, et donc il avait besoin qu'il y ait une administration qui fonctionne correctement partout où il s'installait. C'était en Afrique du Nord, ça allait être en France. Il allait avoir au moins autant besoin de Gaulle que de Gaulle aurait besoin de lui. Et donc, d'où cette communauté d'intérêts qui fait que de Gaulle avait pratiquement l'assurance que lorsque Eisenhower arriverait en France, eh bien, il ne s'appuierait sur personne d'autre que sur lui.
On est très étonné au fond de cette opposition entre de Gaulle et Roosevelt. Et à un moment, vous citez, je ne retrouve plus la citation, une citation de Sir Alexander Cadogan qui compare cette opposition de Gaulle-Roosevelt à des querelles de jeunes filles dans un pensionnat.
C'est du caquetage de pensionnat de jeunes filles, ce qui n'était pas très gentil pour les jeunes filles d'ailleurs. Mais de Gaulle, Roosevelt et Churchill se comportent comme des jeunes filles à l'approche de la puberté, etc. Bon, il y a évidemment les caractères des hommes en question, évidemment. Ça aggrave les conflits. Les conflits existent pourquoi ? Ils existent parce que Roosevelt n'est pas capable, à la fois ni en Afrique du Nord, ni en France par la suite, de faire la différence entre une libération et une occupation. Il n'arrête pas d'ailleurs d'utiliser un mot pour l'autre. Et des gens comme Murphy, comme Eisenhower, comme un certain nombre de ses représentants lui disent « Mais enfin, monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait en Afrique du Nord ? On occupe, on libère, on occupe, qu'est-ce qu'on fait ?» Et Roosevelt répond tantôt l'un, tantôt l'autre. Dans son vocabulaire, les deux mots étaient pratiquement interchangeables.
C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, en fait, dans votre livre. Il y a une sorte de flou politique. Et alors qu'aujourd'hui, on a une vision très tranchée sur cette période, eh bien, on se rend compte que les choses étaient bien plus compliquées que cela, même dans le camp des Alliés.
En partie parce que Roosevelt était un homme extrêmement désordonné, qui faisait faire les mêmes choses par plusieurs personnes différentes qui parlaient toutes en son nom. Et donc, ça faisait évidemment une politique extrêmement désordonné. Il faut voir un petit peu. De Gaulle, je crois, surestimait beaucoup le machiavélisme de Roosevelt, ou en tout cas, non pas son machiavélisme, parce qu'il en avait, mais son esprit d'organisation. Il pensait que Roosevelt lui préparait des pièges, qui n'étaient pas faux, mais qu'il les préparait sur le long terme. Et ça, c'est pas vrai. Roosevelt improvisait. Il n'arrêtait pas d'improviser. Et c'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle a réussi à s'imposer, parce que De Gaulle, lui, n'improvisait jamais.
Mmh. Nous arrivons au terme de cette émission. Yalta est l'insulte suprême pour le général De Gaulle ?
Oui, c'est l'insulte suprême. Pourquoi ? Parce qu'il a vu une deuxième fois, et une deuxième et dernière fois, Roosevelt à Washington à l'été de 1944. Roosevelt, qui n'était pas à une flatterie près, lui a offert son portrait sur lequel il a écrit au général de Gaulle qui est mon ami, ce qui prouve que Roosevelt avait une notion très extensive d'ailleurs de l'amitié. De Gaulle, quelque part, a pensé que ça créait certaines obligations mutuelles et qu'à partir de ce moment-là, où il avait été reçu à Washington, où Roosevelt avait fait certains discours, eh bien, que ça l'obligeait quand même à un minimum de soutien à la France libérée. Et il a été assez effaré, alors que Vichy avait disparu, donc toutes les fictions que Roosevelt avait soutenues pendant toutes ces années avaient disparu, et Laval avec, eh bien, malgré ça, il s'aperçoit que ma foi, Roosevelt continue à le considérer comme un ennemi. Et ça, il a du mal à admettre. Et à partir justement de février 45, De Gaulle, étant maître de la France, se considère comme une puissance à l'égal de l'Angleterre et des États-Unis. Et par conséquent, il ne comprend pas, et de l'Union soviétique, il ne comprend pas pourquoi il n'est pas invité. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que ni Staline, ni Churchill, ni Roosevelt ne tenaient vraiment à le voir là, parce que De Gaulle, c'était l'empêcheur de tourner en rond. Mais il a été vraiment très offensé. Et donc, lorsqu'après, il y a eu une certaine incompréhension, mais lorsqu'après, Roosevelt l'invite à venir le voir, de façon très maladroite d'ailleurs, puisque c'était tout de même en territoire français d'Afrique du Nord, eh bien, De Gaulle refuse en des termes assez abrupts, justement parce que, à la fois parce qu'il n'a pas été invité à délibérer à Yalta, et à la fois parce que l'invitation lui paraît tout de même très cavalière. Et donc c'est sur cette incompréhension-là que pratiquement les relations se terminent. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que De Gaulle, qui avait le caractère que l'on connaît, malgré l'opposition qui, ma foi, a été pratiquement constante entre les deux hommes, eh bien, lorsque Roosevelt a disparu, lorsqu'il est mort, le 12 avril 1945, eh bien, De Gaulle a toujours dit, et pratiquement jusqu'à sa propre mort, que évidemment il s'était pas entendu avec Roosevelt, mais que ça n'empêchait pas que Roosevelt était un grand homme, qu'il avait énormément d'admiration pour lui. Il était allé même se recueillir sur sa tombe en 1945, et il a dit à Eleanor Roosevelt, son épouse, j'ai toujours beaucoup admiré votre époux. Et ça, évidemment, Eleanor n'en a rien cru. Elle a eu tort. C'était le cas.
Eh bien, c'est sur ces mots, François Kersaudy, que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre De Gaulle et Roosevelt, Le duel au sommet, paru aux éditions Perrin. Merci et à bientôt. Oui. Je recevrai la semaine prochaine Bernard Houdin qui viendra nous parler de l'implication d'Aristide Briand dans la loi de 1905 et les modifications en 1923-1924. Je dis à ce propos que la Revue des Deux Mondes, le numéro du mois de février 2005 vient de sortir et elle est consacrée à Dieu et à César, donc à la fameuse loi de 1905, le centenaire de la séparation de l'Église et de l'État. Merci.